Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec, en espérant que vous passez, que vous avez passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes ensemble ce soir, puisque j'ai une invitée de feu, c'est le docteur Julie Saint-Pierre, qui est pédiatre. Madame Saint-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Ah, que vous m'avez fait réfléchir aujourd'hui avec votre documentaire qu'on va parler dans les prochaines minutes. Docteur Saint-Pierre, vous devriez vous dupliquer. Il devrait y avoir plusieurs Julie Saint-Pierre dans le monde qui sont docteurs. Ça a été un régal, ce documentaire-là. Puis enfin, on a des réponses à nos questions qu'on se posait depuis des années et des années. Le nom du documentaire, on va le dire, c'est « Pourquoi attendre la santé à portée de main? » Un documentaire de 2 heures. Franchement intéressant. Très content de vous rencontrer, Mme Saint-Pierre.
Moi de même.
Est-ce que vous êtes une dame de Québec?
En fait, je suis originaire de Jonquière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai été élevée pas mal entre le Saguenay puis le Lac-Saint-Jean, près de l'Adoré. Je me suis dirigée vers Québec à mes 17 ans pour faire mes études qui se sont prolongées pendant plusieurs années à l'Université Laval, du cégep jusqu'à la fin de mon doctorat, ma médecine, ma pédiatrie, tout ça à Québec.
Vous avez passé combien d'années à Québec?
18 ans.
18 ans, puis vous nous avez quittés pourquoi, Mme Saint-Pierre?
Ben, c'est compliqué, mais à l'époque, j'avais quand même 3 enfants.
Ouais.
J'avais une carrière internationale en termes de recherche. J'avais la pédiatrie qui me demandait énormément. Je me suis rapprochée de mes parents au Saguenay-Lac-Saint-Jean pendant plusieurs années. Puis quand les enfants ont atteint un âge respectable, j'avais des défis qui m'attendaient sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Je suis à Montréal depuis quelques années.
Ouais. Qu'est-ce qui vous intéressait dans la médecine, Mme Saint-Pierre?
Écoutez, c'était la cure, hein. C'était de trouver, dès mon jeune âge, le médicament ou la pilule qui allait pouvoir sauver l'histoire de ma famille, puis de mes parents qui allaient pas se reproduire, des parents très malades du cœur, puis le reste de ma famille qui sont tous décédés. Avant l'âge de 50 ans. Donc, ça m'a vraiment motivée à vouloir devenir une chercheure initialement qui allait trouver une cure pour cette maladie-là. Puis, de fil en aiguille, j'ai adopté la pédiatrie contre toute attente. En fait, je devais être cardiologue adulte initialement. Puis, j'ai changé mon fusil d'épaule pour aller vers la pédiatrie parce que je trouvais que les parents, ils se sentaient plus concernés avec leurs enfants quand ils étaient malades que les adultes eux-mêmes quand on dit « vous êtes malade, il faut changer votre mode de vie ».
Ouais.
Ben, si on n'a pas de motivation comme nos enfants, malheureusement, il y en a qui laissent tomber vite. Fait que ça, c'était moins compatible avec moi.
Vous vouliez travailler en amont.
Exactement.
Avec les jeunes, dès le départ, pour bien les faire débuter dans la vie. OK. Exactement. Et depuis combien... Est-ce que quand vous sortez de l'Université Laval, vous avez choisi immédiatement d'être pédiatre ou bien vous avez été comme dans le secteur de la cardiologie puis après ça, on s'en va vers la pédiatrie?
En fait, j'ai déchiré mon contrat de travail à la dernière minute à Toronto. Une belle carrière universitaire qui m'attendait là-bas en cardiologie pour les enfants pour choisir le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Où est-ce que je trouvais que finalement mes garçons qui étaient rendus les plus vieux à 9 et 10 ans m'ont convaincu que la qualité de vie serait peut-être meilleure là-bas près des grands-parents que dans une grande ville comme Toronto. Donc, je les ai écoutés.
OK. Ben vous avez écouté vos enfants. Vous n'avez pas de l'âge. Je vous regarde. Je pense pas que vous vous étiez trompé à ce moment-là.
Pas du tout.
Non. Docteur Saint-Pierre, pourquoi vous êtes intéressé aux enfants qui ont un taux d'obésité?
En fait, ça m'intéresse parce que, c'est une maladie qui est très sournoise. C'est une maladie complexe. C'est une maladie qui a touché beaucoup les membres de ma famille. Donc, puis d'aller jusque dans les grosses complications comme le diabète, les maladies du cœur, la mort, même pour certains là, dans la fin de la quarantaine. Donc, ça m'a éveillée très jeune à avoir de la curiosité là, pour l'obésité, me demander tu sais, comment ça marche, tout ça. Donc, j'ai d'abord commencé à faire de la recherche en génétique pour essayer de trouver des gènes, mais là, il y en avait tellement à un moment donné que on est rendu en date d'aujourd'hui à 1800 gènes qui peuvent influencer la maladie. Donc, je me suis mise à m'intéresser beaucoup aux impacts de l'environnement sur la génétique, puis de constater que finalement, même si on découvre plein de choses sur le plan génétique, ben si on modifie pas notre environnement, nos habitudes de vie, ben c'est un peu perdu d'avance. D'où le fait que je me suis lancée à ce moment-là du côté de la pédiatrie puis de cette maladie-là en disant ben il faut travailler dès le départ avant que la maladie soit trop exprimée.
Il y a un enfant sur trois, reprenez-moi si j'ai pas les bonnes statistiques, mais il y a un enfant sur trois qui aurait un excès de poids ou encore qui vit avec l'obésité au Canada.
Oui, exactement. Donc c'est quand même beaucoup. C'est le tiers, en fait. Donc, si on regarde ça d'un point de vue épidémiologique, ça veut dire qu'au Québec, sur à peu près 1,5 million d'enfants, ça nous donnerait quelque chose comme
500 000.
500 000 enfants à risque. Donc, c'est quand même pas banal. On a une épidémie, là, puis c'est pas juste chez nous, c'est dans tout le monde entier.
Je regardais votre documentaire tout à l'heure, puis il y a une statistique qui m'a frappé. Vous êtes allé aux États-Unis rencontrer des spécialistes et le spécialiste est sur scène et il parle des problématiques avec le corps et il mentionnait qu'il y avait seulement 7% des Américains qui étaient sains, qui n'avaient pas de
Oui.
problématiques. Et là, je me suis dit, OK, 7 qui sont sains, ça veut dire que 93% des Américains ont une problématique, là.
Exactement. Puis ça va vraiment avec le type d'alimentation qu'on a. Oui, les autres facteurs sont importants, mais entre autres pour ce qui est du docteur Lustig, pour lui, tu sais, l'inflammation, c'est causé et il a les évidences qui vont avec, là. C'est causé principalement par les aliments ultra transformés qui contiennent toutes sortes de choses. Donc, pensez-y. Tout le monde en mange des aliments ultra transformés. Donc, 7% qui mangent plus sainement aux États-Unis dans un contexte économique difficile, c'est une donnée qui choque, mais qui en même temps, quand on la décortique un peu comme on le fait là, ben ça devient une vérité malheureusement.
Ah, mais tout à l'heure, quand je vais revenir à la maison, je ne regarderai plus mon frigidaire pareil. Je peux vous le dire avec le documentaire que j'ai vu tantôt. Je me suis dit, boy, il va falloir que je fasse de gros, gros, gros efforts. Quand vous discutez de l'obésité avec les parents, est-ce que les parents ont une tendance à se sentir coupables que leurs enfants aient un excès de poids ou soient obèses, ou les parents disent, on est au courant?
Oui, mais c'est bien que vous demandiez ça parce que, en fait, nous, notre travail, c'est de les déculpabiliser, hein. C'est une responsabilité qui est collective. Elle est collective tant et aussi longtemps que la population, les parents, dans le cas qui nous intéresse présentement, n'auront pas eu l'information ou n'auront pas été éduqués à faire de meilleurs choix. Donc, une fois que le parent est éduqué, okay, oui, il y a une responsabilité individuelle, mais la première chose qu'on doit faire, c'est leur dire, vous savez, l'industrie agroalimentaire, elle est forte. Il y a beaucoup de marketing qui est fait avec des milliards de dollars en profit en Amérique du Nord. Et c'est un phénomène qui se mondialise de plus en plus. Donc, c'est certain que vous n'êtes pas à l'abri de ça, puis votre enfant n'est pas le seul à souffrir de cette maladie-là. Il y en a beaucoup d'autres. Puis là, en donnant des chiffres, en déculpabilisant la famille, ça fait que, et tout en demandant la permission, bien sûr, d'en discuter aux parents, ça l'enlève du poids, ça suscite souvent des larmes du côté des parents parce qu'ils nous remercient très souvent d'aborder cette question-là dans une société qui est très grossophobe, hein, à tous les niveaux. Puis ça fait que les gens vivent leurs difficultés. L'enfant, tu sais, est taxé sur son apparence corporelle, subit de l'intimidation bien souvent avant l'âge de 10 ans. Et eux, ben là, ils vivent ça tout seul dans leur coin. Puis malgré les messages anti-grossophobie qu'on espère voir mieux respecter dans la société, ben ces enfants-là souffrent, ça affecte leur projet de vie. Donc, je dirais plutôt que les parents voient ça comme enfin, on a des gens qui vont pouvoir nous accompagner dans ce défi de santé-là.
Okay. Est-ce que parce que est-ce que parfois on peut être responsable de la grosseur de nos enfants? Enlevons l'argent qui peut rentrer dans le compte en banque qui fait en sorte qu'on peut faire l'épicerie de façon saine, là, parce que tu sais, je regarde une cruche de jus d'orange, c'est quoi, 7-8 $, mais une orangeade, c'est 2 $. Donc là, le choix du parent, c'est OK, ben là, moi je trouve ça cher,
Ben,
là, 8 $ pour une
de
cruche
toute
de jus d'orange.
façon, c'est un mauvais exemple parce que ni l'un ni l'autre est bon pour la santé, là.
Ah! Quoi?
Même le jus 100% fruit, une fois que vous l'avez transformé, vous avez enlevé les fibres fonctionnelles. Donc, c'est vraiment comme si vous donniez du sucre blanc à votre enfant. Les évidences scientifiques sont là depuis une dizaine d'années, je vous dirais, puis on commence à peine à comprendre sur le plancher des vaches, je vous dirais là, que les gens commencent à diffuser cette information-là. Les ventes de jus sont en train de baisser en Amérique du Nord parce
Ah oui.
que de plus en plus de gens sont au courant de ça. Mais oui, vous apportez un élément économique important, mais est-ce qu'ils sont responsables? Je suis obligée, regardez, vous prenez le jus d'orange comme exemple, vous ne le savez pas, vous, vous n'êtes pas dans la misère, puis ces parents-là ne le savent pas non plus. Donc, peu importe les choix qu'on fait, puis c'est un exemple que je ramène à tout le monde, vous allez acheter le Protégez-vous pour savoir c'est quoi les meilleurs cadeaux de Noël, c'est quoi les patentes de bébé les plus in pour que votre enfant se développe le mieux possible et le plus rapidement possible et soit le petit génie de sa classe. Mais personne n'achète des livres pour s'éduquer sur la qualité de l'alimentation qu'on a à tous les jours et qu'on offre 3 fois par jour minimum à nos enfants. Donc, c'est là où est-ce que je suis obligée de vous dire qu'on a fait une croix là-dessus, pas juste au Québec, au Canada, dans le reste du monde entier, on valorise davantage le profit, l'économie par rapport à l'éducation, à la santé. Puis, je pense que ça fait leur affaire que les gens ne soient pas trop éduqués. Comme ça, ils peuvent continuer à remplir les coffres des actionnaires de ces compagnies-là.
Est-ce que, bon, mais d'un autre côté, si on est des parents, puis on n'incite pas nos enfants à sortir dehors, puis qu'on se dit, ben au moins ils sont en dedans, ils sont en sécurité, mais ils jouent avec leurs jeux vidéo, font pas nécessairement de sport, on va à l'épicerie, on achète des produits qui sont extrêmement transformés. Là, vous venez de me l'apprendre pour ce qui est du jus d'orange. J'étais un peu déçu, j'aime bien ça, mon verre de jus d'orange chaque matin. J'ai l'impression que je mets du gaz d'avion dans un corps. Là, vous me dites, ben il est transformé un peu ton jus d'orange, ça se peut qu'il te nuise
Exact.
autant que l'orangeade.
Oui. Puis, tu sais, c'est ça qui est malheureux, mais, tu sais, à quelque part, j'ai participé quand même à plusieurs émissions sur le sujet. Nos enfants, dans la génération actuelle là, des ados, c'est une génération très sacrifiée.
Ouais.
Au-delà de la pandémie là, qui a eu le dos très large, il faut reconnaître que nos enfants ont été, oui, enfermés, ont développé encore plus de mauvaises habitudes qu'avant. Ces écrans-là sont très addictifs. Mais en même temps, ils poussent 25 millions de publicités malsaines via les réseaux sociaux à nos ados annuellement par adolescent. C'est une donnée de la Fondation des maladies du cœur qui est très, très, très bien démontrée. Donc, à quelque part, ben, il faut s'assumer aussi comme parents, hein. C'est nous qui leur avons mis ça dans les mains. C'est nous qui les gardons à l'intérieur. C'est nous qui donnons des permissions pour ça. Si vous regardez les statistiques au niveau canadien, là, le budget technologique de chaque famille, peu importe son revenu, même si on est dans la pauvreté jusqu'à la richesse, ne cesse d'augmenter. Notre budget familial technologique augmente et La corrélation est directement avec la diminution du budget à l'épicerie, peu importe nos revenus. Donc, les gens dépensent moins sur une bonne épicerie, achètent plus de produits transformés, puis mettent plus de temps et d'argent dans les écrans. Donc, c'est une vérité, il faut l'assumer. Donc, comment maintenant on peut améliorer cette donnée-là pour avoir une société plus en santé? C'est ce qu'on propose dans Pourquoi attendre?
Madame Saint-Pierre, c'est particulier parce que quand nous étions enfants, vous et moi, quand nos parents étaient un peu insatisfaits de notre comportement, ils nous mettaient en punition, mais à l'intérieur de la maison. Et là, à certains moments, puis je m'en confesse à vous, docteur, à certains moments, mes enfants, l'hiver, se chicanent pour, je sais pas moi, un jeu quelconque à la maison. Puis là, je me dis, bon, ben c'est samedi, il fait beau dehors, même si c'est l'hiver. Je veux les mettre dehors. Et là, ils ont vraiment l'impression que leur père est extrêmement cruel. Quand je ferme la porte de la porte patio, ils me regardent. Puis, ils sont vraiment
oui,
pas contents.
Oui, vous êtes un père négligent, maltraitant. Écoutez, j'en entends toutes les sortes hein, ouais. Dans mon bureau. J'ai déjà eu un jeune qui a convaincu son père que c'était un droit fondamental de l'enfant d'avoir un écran puis un accès aux réseaux sociaux. C'était un monsieur qui avait fait le choix de venir vivre au Canada. Et j'ai dit, mais monsieur, attendez un petit peu, là. On va retourner dans les besoins essentiels de l'enfant, son meilleur intérêt, puis je vois nulle part qu'un écran et un accès aux réseaux sociaux à 12 ans est un besoin essentiel. Donc, vous voyez, hein, on a comme la main dans le tordeur, puis on rentre dedans encore plus, d'où l'importance peut-être d'avoir éventuellement des lois qui vont protéger les jeunes à ce sujet-là. C'est complexe, mais je pense que les parents ont perdu beaucoup de pouvoir aussi dans l'éducation de leurs enfants. Les enfants ont des droits, les enfants veulent avoir un accès aux écrans puis aux réseaux sociaux, mais en même temps, on a dépassé les limites de l'acceptabilité. On voit tous les jours des dépendances aux écrans, des dépendances à la pornographie, des dépendances à toutes sortes de produits malsains parce que l'enfant passe un temps fou et le marketing est très, très, très bien fait. Il est très puissant, que ce soit de TikTok à Instagram, Snapchat, Discord, vous pouvez toutes les nommer. Les enfants ont accès à ça malgré l'âge qui n'est pas souvent au rendez-vous. Et ça entraîne toutes sortes de complications dans leur comportement et dans leur santé.
Quand vous travaillez avec les parents et les enfants, bien entendu, bon, vous parlez de déculpabiliser les parents, puis après ça, reprendre les bases. C'est quoi les étapes que vous faites? Est-ce que vous approchez les enfants? Est-ce que vous leur montrez une autre façon de faire? Est-ce que vous les faites bouger? Au niveau du choix de nourriture, je me dis, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit, Yann, le jus d'orange que tu achètes aussi est transformé, peut-être aussi nocif pour toi. Je me suis dit comme réflexion, docteur Saint-Pierre, quand elle va faire son épicerie, ça doit être long.
Bien, c'est surtout long parce que j'aime ça amener des idées à mes familles. Puis il n'y a pas juste ma nutritionniste qui travaille là-dessus, ouais. Moi aussi. Puis j'ai été parent, mes enfants commencent à être grands, mais j'ai dû moi aussi faire des choix à l'épicerie pour mieux les nourrir. Puis c'est, tu sais, avec les contraintes, des coûts et tout. Donc, je suis toujours contente, là. Il y a des fois où est-ce que je peux rester 3 heures à l'épicerie à tourner les boîtes puis à regarder qu'est-ce qu'il y a de mieux pour eux. Donc, c'est sûr qu'on accompagne les parents avec un 25 heures d'éducation à la santé. C'est un programme qui est participatif, ouais. L'approche 180, on force personne, mais nous, comme soignants, toute l'équipe va sélectionner des objectifs réalistes. On va vulgariser l'information qui est bonne pour ça. Parfois, on doit jouer au médiateur entre le parent et l'enfant, faire réaliser à tout le monde que c'est un rôle commun, puis c'est pas non plus une punition pour l'enfant ou l'adolescent. De voir que souvent, nos enfants sont le reflet de ce qu'on fait nous-mêmes. Donc, d'apporter des solutions autour de la table pour améliorer les comportements alimentaires, ben c'est clairement pas avec une tablette qu'on va le faire. C'est en se parlant, c'est en déposant la fourchette, en augmentant le temps pour que la satiété arrive dans notre cerveau. Ça prend 20 minutes. La majorité des jeunes mangent en 20 minutes. Ça va être d'amener des notions au niveau du déjeuner. Un ado sur deux ne déjeune pas, alors que en fin de journée, il va avoir des impulsions incontrôlables d'aller chercher qu'est-ce qui lui a manqué dans la journée. Donc,
Ouais.
des seconds services, manger vite à nouveau, des choix plus impulsifs, plus de sucre, plus de gras, plus de sel. Donc, vous voyez, c'est tout interconnecté. Le sommeil est important aussi. On va les accompagner là-dedans. On va dire, pas de problème à ce que tu utilises ton écran, mais pas une heure avant de te coucher. Comme ça, ben ton cerveau va mieux récupérer, puis demain, tu feras des meilleurs choix, tu ne seras pas trop impulsif. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, avec ou sans trouble d'attention.
Quand j'ai regardé votre documentaire, j'ai vu que bon, il y en a qui utilisent des substituts. Moi aussi, j'utilise des substituts au repas. Des fois, c'est des barres qu'on
Oui.
utilise, des barres énergétiques. Des fois, ça peut être un produit que j'achète qui me mentionne que dans ce produit-là, il y a 40 grammes de protéines. Donc, je me suis dit, ah, ben, ça va me donner un petit peu plus, ça va me donner un peu d'énergie parce qu'il y a un peu de sucre aussi au travers de tout ça. Ça, on apprend dans votre documentaire que c'est pas nécessairement bon pour la santé, ça.
Ben c'est là où est-ce que Jean-Marie Lapointe est exceptionnel dans sa co-animation avec moi, où est-ce qu'il joue le jeu, en fait, puis qui est un personnage véritable, le sien. Et Jean-Marie a participé à la découverte de la santé au fur et à mesure qu'on rencontrait nos spécialistes et nos invités à travers le monde. Et bien entendu, la barre de protéines est un exemple très intéressant, hein. Il le dit très bien, un quick fix, là. On peut utiliser ça rapidement pour sauver du temps parce qu'on est d'une société où est-ce qu'on nous demande toujours d'être plus pressé. Puis ça met encore plus de pression sur tout le monde. Donc, mais malheureusement, là-dedans, quand vous prenez la peine de tourner votre barre protéinée, puis de regarder tous les ingrédients qui y figurent, souvent vous allez avoir aussi trop de sucre, pas assez de fibres, vous allez avoir d'autres produits qui sont là pour conserver l'aliment longtemps pour que, en fait, celui qui le vend ne perde pas le produit dans son emballage. Et certains de ces produits-là peuvent être parfois mauvais pour la santé, voire même toxiques, là, ou même très pro-inflammatoires, c'est-à-dire causer du stress dans notre système sanguin, dans nos organes. Et ça, ben, à petit feu, si on les utilise de manière exagérée, ou trop fréquente, ben ça peut conduire à des maladies. En fait, ce qui est important là de savoir aussi, c'est qu'on ne cherche pas à démoniser aucun produit. On donne des exemples, mais en soi, c'est plutôt de proposer une solution plus équilibré à la population, de dire, ben écoutez, peut-être que notre goût du sucre, de l'ultra-transformation est venu peut-être un peu trop chatouiller le centre du plaisir dans notre cerveau, puis on a augmenté, augmenté, augmenté les plaisirs tout en négligeant ben, les aliments qui pouvaient améliorer notre santé. Donc, c'est vraiment de proposer de rebalancer l'alimentation et toutes les autres habitudes de vie pour que finalement la santé de nos populations s'améliore. On ne peut pas continuer à regarder la société s'auto-détruire comme ça. On n'a plus de travailleurs, on a des gens qui sont stressés, les problèmes de santé mentale ont explosé. Donc, à un moment donné, il faut que quelqu'un mette le pied sur la pédale, arrête le train et dise un instant, il y a peut-être des choses qu'on peut faire avant qu'il soit trop tard.
Est-ce qu'on fait trop confiance aux entreprises? Parfois, quand l'entreprise, c'est une entreprise où on entend régulièrement le nom, c'est une entreprise qui a énormément de notoriété, ils fabriquent un produit qui te donne l'impression une fois que tu vas l'avoir mangé, tu vas être pratiquement plus en forme. Le produit, juste l'emballage, c'est flash. On se dit, wow, tout est beau. Mais on prend
Oui.
jamais la peine de faire comme vous nous dites de faire, c'est-à-dire juste tourner la tablette qu'on va manger pour se donner de l'énergie pour notre entraînement, puis on regarde les produits et on se dit, coudonc, il n'y a pas un que c'est un fruit et un légume là-dedans, là.
Ben, c'est sûr qu'on leur fait vraiment confiance, mais trop confiance, en fait. Parce que oui, des fois, c'est parce que la notoriété est là depuis longtemps, mais c'est surtout parce qu'on est dans un marché libre, hein. En Amérique, c'est le profit à tout prix et le prix de la santé est souvent celui qu'on paie en ce moment parce que plus un produit est profitable, plus il risque d'être ultra transformé et de causer des dommages. Donc, ça prend plus de temps, on vient de le dire, les gens sont pressés. Fait que de tourner la boîte à l'épicerie, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont 3 heures comme moi de temps en temps pour. Moi, ça fait partie de ma job, je l'assume comme ça. Mais les parents seuls, avec des enfants, toute personne qui a un travail exigeant, qui n'a pas beaucoup de temps, qui veut quand même avoir d'autres loisirs. Ben, c'est sûr que de tourner chaque chose qu'on a l'habitude d'acheter puis de mettre dans le panier et que peut-être aussi on a développé une habitude où est-ce que ce produit-là, ben, tu sais, je vais prendre l'exemple du ketchup. J'aime beaucoup cet exemple-là parce qu'en plus, c'est quelqu'un que je connais qui a créé Canada Sauce. Le Heinz que vous achetez, ben, il y a du sucre dedans pour le conserver. Puis quand on regarde ben, l'autre produit, lui, il y a moins de sucre dedans. Puis là, qu'est-ce que ça a fait? C'est que probablement que les ventes de ketchup ordinaire ont dû baisser parce que là, ce qu'on voit apparaître depuis quelque temps, ben, c'est le fabricant initial qui est allé créer un nouveau ketchup avec moins de sucre dedans. Donc, vous voyez, on a le pouvoir comme consommateur de faire changer l'agroalimentaire. D'autres compagnies l'ont fait aussi en réduisant les quantités de sucre dans le lait au chocolat. Dr. Lustig l'a fait dans un pays arabe. Il a été invité, en fait, par un propriétaire d'une grande société qui fait des produits ultra transformés. Pourquoi il l'a invité? Sa femme a développé à cet entrepreneur-là un diabète de type 2. Et monsieur était très dévasté par cette nouvelle-là. Et il a compris des médecins de son épouse que c'était en lien avec les produits ultra transformés qu'elle consommait. Donc, il est allé chercher, étant très riche, il est allé chercher 5 spécialistes à travers le monde. Puis il dit, vous allez transformer tous mes produits ultra transformés. Vous allez me faire des suggestions pour que les consommateurs, je ne peux pas faire ça à mon peuple. Je ne peux pas vendre ça sur les étagères avec une bonne conscience. Fait que vous voyez, il y a un éveil peut-être à créer. C'est un peu ce qu'on voulait faire avec le film, amener des solutions. D'avoir peut-être des meilleurs produits. Mais ça, ben, il faut que les consommateurs fassent des meilleurs choix puis qu'ils soient éduqués à ça.
Vous et moi, on se part un pays, on est les deux dictateurs de notre propre pays, puis on se dit, voici le gouvernement qu'on veut mettre en place. On va l'appeler l'utopie, on se met un santé-utopie. Est-ce qu'on aurait avantage en tant que pays à justement peut-être resserrer les règles au niveau de la transformation de la nourriture? Est-ce que le Canada pourrait embarquer un jour là-dedans en se disant, ben, on remarque taux d'obésité est très élevé, c'est probablement les produits transformés. Est-ce qu'on aurait avantage à resserrer les règles?
Ben, en fait, c'est en ce moment, c'est fait. Je vous dirais que c'est plus que le Canada, le Québec, entre autres, a fait la sourde oreille où l'information est mal véhiculée au sein du gouvernement par les gens de la santé publique. Mais quand on regarde l'Organisation mondiale de la santé, on est allé s'asseoir avec le directeur de la nutrition mondiale à l'OMS et qui gère aussi le dossier des maladies non transmissibles, dont l'obésité. Et Dr. Branca a émis dans les 2 dernières années énormément de recommandations pour tous les pays du monde. Une des choses là, qui a été émise l'an dernier, c'est d'aller vers la taxation des boissons sucrées, d'aller vers un stop au marketing autant que possible dans la clientèle pédiatrique. C'est d'aller chercher aussi le moins de transformation possible. Donc, d'avoir aussi des nouvelles façons d'alimenter notre population. On suggère aussi d'avoir une modification de l'offre alimentaire. On demande de réduire les quantités de sucre de sel et de gras dans les produits qui sont vendus dans sur les tablettes des épiceries. Les Américains viennent de passer une loi à cet effet-là qui va entrer en vigueur, entre autres pour les écoles à travers les États-Unis en 2027. Le Mexique le fait, l'Afrique du Sud le fait, le Portugal le fait. Moi, je suis ces rencontres-là avec beaucoup d'attention. J'ai participé à quelques-unes de ces rencontres-là également en tant que chercheur et professeur de pédiatrie. Et je peux vous dire que il y a des pays qui n'ont pas nos moyens et qui ont réussi à faire des choses fantastiques. On l'a vu aussi dans les médias dans les derniers mois. Nos enfants ne mangent pas bien dans les écoles. C'est un programme national qui pourrait être utilisé ici dans ce nouveau pays-là qu'on va gérer. Où est-ce qu'on aurait, entre autres, des produits dans les écoles qui sont le moins transformés possible, peut-être en partenariat avec des gens de l'UPA, peut-être d'aller chercher aussi plus d'autonomie dans les serres avec Hydro-Québec. Donc, dans ce pays-là, peut-être qu'on pourra proposer des choses différentes qui seront en premier lieu à l'avantage de notre santé plutôt que de promouvoir les profits économiques à tout prix.
Qu'est-ce qui fait que le produit qui est transformé n'a pas l'impact correct sur notre corps versus un produit qui l'est pas transformé?
Il va
toucher certaines cellules?
C'est vraiment une question de fibres fonctionnelles. Donc, si vous demandez à n'importe quel nutritionniste qui sont extrêmement connaissantes et bienveillantes pour accompagner les gens dans cette éducation-là à une meilleure santé cardio-métabolique. Donc, c'est vraiment lorsqu'on brise par la transformation la fibre naturelle d'un aliment sain au départ. Les recherches ont montré que à ce moment-là, il y avait une transformation possible, même des bons sucres comme le fructose, le sucre naturel des fruits, quand il va arriver au niveau de sa transformation au niveau de l'intestin et du foie, il va devenir un gras. Un gras qui va aller tout simplement chez certaines personnes qui sont plus disposées que d'autres, va aller stocker plus d'énergie dans les cellules graisseuses qu'on appelle les adipocytes. Donc, cette découverte-là, dans les dernières années, a fait changer notre perception. Tout ce qui transforme en smoothie, par exemple, devient un dessert. Tout ce qui liquéfie un produit, on devrait toujours avoir un haut degré de suspicion face à cet aliment-là.
Il y a le docteur que vous avez rencontré, je crois que c'était aux États-Unis, qui mentionnait, puis sa présentation était tellement bien faite, il était sur scène, puis là, il montrait une belle voiture sport, puis il dit, à la naissance, on vous donne une belle voiture sport, puis voici ce à quoi vous avez de l'air aujourd'hui à l'intérieur. C'était une vieille voiture qui est un peu maganée.
C'est un peu taco. Un vrai taco.
C'est un peu l'effet que ça fait, la malbouffe, sur l'être humain.
Exactement, c'est vraiment l'effet que ça donne au niveau de l'inflammation, l'enflure dans notre système. Ouais. C'est pour ça aussi que pendant la COVID-19, il y a eu plus de mortalité après l'âge. Là, le deuxième facteur, c'était l'obésité, l'embonpoint qui était le facteur le plus important au niveau de la mortalité et de l'hospitalisation dans les soins intensifs. Donc, on ne peut pas se le cacher, mais ce n'est pas une mesure qui est faite au quotidien. Quand on va voir notre médecin ou notre infirmière praticienne, on ne va pas mesurer d'emblée l'inflammation, l'enflure de votre système sanguin. Donc, c'est une mesure qui est un peu plus spécialisée. Donc, si on regarde seulement votre cholestérol, par exemple, puis votre pression, puis peut-être une glycémie ou un sucre dans votre sang à jeun, bien, on va dire, ben non, ça va, vous êtes en santé. Mais il se passe des choses qui sont en train de détériorer votre santé à l'intérieur de vous sans même s'en rendre compte.
Est-ce que, là, je vais vous poser une question, parce que quand on voyage, on s'aperçoit qu'on n'a pas toute la même façon de faire au niveau, parce que c'est peut-être culturel, mais nous, on aime beaucoup boire du lait au Québec. Moi, je suis un grand buveur de lait, j'en bois peut-être 3-4 verres par jour. Il y a des gens qui m'ont dit « Yann, t'en bois beaucoup trop », il y en a d'autres qui ont dit « Ben non, le lait, c'est naturel, il n'y a pas de problème ». Quand on va dans d'autres pays, ils en boivent pas de lait, ou pratiquement pas. Le lait qu'on boit ici au Québec, c'est-tu un lait qui est correct, parce qu'il est transformé, on va se le dire un peu, il est taponné un peu. Est-ce que c'est correct?
Moi, je n'ai pas étudié le lait à proprement parler, là, mais je peux vous dire que les gens sérieux de Santé Canada qui ont émis le guide alimentaire canadien en 2019, lorsqu'il a changé, n'ont pas éliminé la consommation de lait et des produits laitiers du guide alimentaire. Ils ont cependant été prudents, ils ont réduit la quantité. C'est sûr qu'on devrait peut-être privilégier certains produits comme le fromage ou comme le yaourt, mais il n'y a pas d'interdiction de boire du lait. Ce qui vient mêler les cartes, puis c'est qu'il y a des études qui ont démontré qu'il y avait un effet bénéfique chez certaines personnes qui ont des maladies inflammatoires comme le rhumatisme, là. Il y a des gens, dans les médecins, les chercheurs ont mis en évidence que certaines de ces maladies-là pouvaient avoir un impact positif de réduire leur consommation de produits laitiers. Ceci dit, à prendre avec un gros bémol, parce que quand on regarde les études, par contre, du côté de l'obésité avec toutes les complications cardio-métaboliques, plusieurs autres études ont prouvé que c'était bien de rester avec une certaine consommation, que c'était bon pour le microbiote, parce qu'en fait, tout ce qui est lactose est un prébiotique. Donc, ça va aller nourrir vos bonnes bactéries dans votre intestin également. Donc, il n'y a pas de raison de se passer de boire du lait. Mais comme pour toute chose, c'est la modération, c'est d'avoir une consommation selon les recommandations de Santé Canada.
Dans votre documentaire « Pourquoi attendre? », bon, vous aviez quelqu'un qui était avec vous en co-animation, qui est un peu comme moi, tu sais, qui aime bien la santé, qui s'entraîne un peu une fois de temps en temps. Jean-Marie est très, très, très en forme. Lui, il n'avait pas les connaissances que vous avez. Vous êtes docteur. Y a-t-il des choses que vous avez apprises que vous vous êtes dit « OK, je m'attendais tellement pas tellement à découvrir ça?
» Oui, vraiment. Puis c'est là où est-ce que je suis peut-être un cordonnier mal chaussé dans le sens où est-ce que c'est pas parce que c'est ma job que je vais être parfaite hein, chez nous. Donc, moi, le stress, c'est quelque chose qui m'atteint vraiment beaucoup et je ne remercierai jamais assez Jean-Marie de m'avoir fait découvrir toute la balance positive qu'on peut aller chercher à travers l'hygiène de notre santé mentale. Là. Puis je m'explique parce que Jean-Marie m'a proposé d'aller rencontrer le traducteur du Dalai Lama. Là, on l'a tout regardé avec des gros yeux un peu sceptiques en disant « Non, mais là, tu sais, t'as le droit d'être bouddhiste, là, Jean-Marie, mais nous autres, on ne trippe pas là-dessus. »
On va amener des scientifiques voir le traducteur du Dalai Lama. Hein? Ça, c'est une bonne idée.
Mais là, il me dit « Non, non, fais-moi confiance, je te le dis, Julie, ce gars-là, il est fascinant, puis il a fait un doctorat comme toi en génétique, son père était philosophe. » Je dis, écoute, là, OK, là, tu sais, prends ton gaz égal, Jean-Marie, c'est correct, on va y aller avec toi, on va aller voir ça. Et ça a été une grande découverte parce que, en fait, Mathieu Ricard, qu'on a rencontré à Paris, il était de passage, puis on allait voir d'autres invités. On a eu la chance de le rencontrer un peu entre deux valises. Puis, il m'a vraiment convaincu de la science en arrière, de la méditation. Puis, tu sais, on le rencontrait plus dans cette optique-là. On voulait qu'il nous parle de bienveillance. On voulait qu'il nous parle de méditation. On voulait qu'il nous explique les études auxquelles lui-même avait participé dans le temps avant de devenir moine. Puis, c'est fascinant de voir les bienfaits pour des activités là, tu sais, qu'on n'a pas besoin de faire des retraites dispendieuses. On n'a pas, c'est quelque chose qui peut se faire gratuitement n'importe où, sur un banc de parc. dans votre chambre avant de vous coucher le soir. Ça n'a pas besoin d'être long. Il y a des techniques rapides une fois qu'on est bon. Moi, ça m'a littéralement là, rejoint. Éduquée, surprise, puis maintenant, ben, j'ai introduit ça dans ma vie de tous les jours, puis c'est vraiment un bienfait que je peux apprécier. Donc, puis on voit les effets quand même à court terme. Donc ça, moi, j'ai appris ça. Ça a été vraiment une belle découverte, mais on en a eu plein d'autres, là. Je vous dirais que tous nos personnages nous ont surpris. Véronique Morin, la docteure qui a travaillé 10 ans dans le Grand Nord, m'a fait beaucoup remettre ma pratique médicale aussi en question parce que quand elle nous donne l'exemple des femmes, des sages-femmes, où est-ce qu'elle arrivait, elle, avec son chronomètre, toute sa technique, ses objets, ses gugus, comme on dit, là,
Ouais.
technologiques pour l'accouchement des femmes, alors que finalement, c'était pas ça du tout. Il n'y avait pas plus de danger. Puis, on n'avait qu'à observer, à écouter ce qui se passait dans la pièce. C'est quelque chose que j'ai tenté moi aussi, observer les silences, être capable de les apprécier dans une entrevue médicale. Ça, moi, ça m'a beaucoup fait remettre en question, encore une fois, ma façon pressée, très nord-américaine, de répondre à un agenda qui parfois n'est peut-être pas le même que le patient. Donc, c'était aussi une autre belle découverte.
Ouais, mais vous voyez, j'ai eu deux enfants, moi. Mais en fait, la mère de mes enfants a accouché de deux enfants. Moi, j'étais là, j'ai assisté à tout ça. C'est moi, je fais partie de 50% de cette création-là, ou de 30 secondes, diront certains. Mais le premier bébé était monitoré. Tout de suite, quand la mère de mes enfants est arrivée à l'hôpital, on monitorait, puis on attendait, puis on faisait des lectures sur le moniteur. Les infirmières étaient très à l'affût. Puis au deuxième bébé, 2 ans plus tard, ils ont commencé à dire non, on n'a plus vraiment besoin de monitorer, ça causait du stress pour rien, ça faisait des mauvaises lectures. Puis c'est une fois rendu là, comme dans la salle d'accouchement où là, ils commençaient à monitorer le bébé. Mais oui, il y a de l'avancement de ce côté-là.
Oui, puis c'est pas, c'est pas un retour en arrière, c'est qu'on est en train d'apprendre de gens qui sont près de nous. Les peuples autochtones qui sont très proches de nous ont plein de choses à nous apprendre comme ça, qui rendent les soins plus humains, puis qui peuvent être très sécuritaires. Prenait peut-être des études à certains pour être capable de démontrer que ça peut se faire. C'est sûr que je vous parle pas d'une unité de soins intensifs néonatale où est-ce que les outils sont vraiment essentiels. C'est tout autre chose. Mais quand ça se passe bien, c'est une grossesse normale, un accouchement normal. Oui, il y a des choses qui vont même favoriser l'attachement, l'allaitement,
Ouais.
la montée laiteuse. Donc, oui, il faut faire une place à des nouvelles façons de faire. Il faut écouter ce que ceux et celles qui ont des choses à nous enseigner. Donc, encore une fois, c'est une solution qu'on voulait partager avec les Québécois.
Je vous rappelle que ce soir, on a le plaisir de jaser. On placote avec le docteur Julie Saint-Pierre, qui est spécialiste en pédiatrie et en obésité. Elle nous parle de son documentaire Pourquoi attendre? On va faire une courte pause et on vient tout de suite. Ce soir, on a le plaisir de passer un bon moment en compagnie de Dr Julie Saint-Pierre, qui est spécialiste en pédiatrie et en obésité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle vient nous présenter son documentaire « Pourquoi attendre? » qu'elle a fait avec Jean-Marie Lapointe, qui est un gars qu'on connaît bien, qu'on a connu à la télé québécoise, qui est le fils de Jean-Marie Lapointe.
Oui.
Voilà, c'est ça. Je me demandais, mais c'était quoi déjà le nom de son père? Ben, c'est Jean-Marie Lapointe aussi.
Jean Lapointe.
C'était Jean Lapointe, voilà. Lui, c'est Jean-Marie. Ouais, on s'est replacé. Donc, les questions que je voulais vous poser, puis j'ai posé la même question à un docteur que j'ai rencontré en début de semaine. Est-ce que, en tant que chercheur, ça vous fait un peu halluciner les fameuses diètes qui sont mises en place dans les dernières années? Moi, quand j'étais jeune, mes tantes prenaient la fameuse crème body. Budwig. Ça n'avait pas de l'air si pire que ça, la crème Budwig. Mais là, on arrive avec des jeûnes intermittents. On arrive avec des diètes où on doit prendre énormément de gras en disant « Non, 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 ça va. » C'est le régime cétogène, je pense.
Oui.
Et après ça, on arrive avec la pilule miracle. Pas la pilule miracle, mais le produit miracle qu'on appelle Ozempic. Vous, là, ouais. Quand vous regardez ça, ça doit être un peu terrorisant, là.
Bien, c'est sûr que c'est deux choses différentes là, dont vous parlez. D'abord, si on peut revenir sur les diètes, on les suit, on les monitore de façon très, très, très rigoureuse avec, entre autres, l'American Heart Association. À chaque année, il y a un comité avec l'Association lipide américaine aussi, où est-ce que ces diètes-là sont revues, sont étudiées, sont suivies dans le temps aussi. Il faut dire qu'à court terme, puis on a rencontré des spécialistes à l'INAF à Québec, justement à ce sujet-là, qui ont confirmé, entre autres, la docteure Robitaille qui nous disait, ben toutes ces diètes-là peuvent parfois être utilisées à court terme, mais quand on les regarde dans une perspective plus à long terme, oui, certaines peuvent avoir des effets négatifs au niveau de la santé cardiaque, mais aussi, dans le fond, elles peuvent apporter d'autres complications au niveau de la programmation de la cellule graisseuse à moyen ou à long terme. Donc, tout ça se traduit simplement, c'est qu'une cellule qu'on fait souffrir, hein, parce que tous ces régimes-là, quand on les regarde bien, ils sont relativement hypocaloriques, donc ils manquent de l'énergie à votre corps pendant très longtemps. Donc, on finit par s'adapter au niveau de la cellule graisseuse, mais le jour où vous arrêtez de faire ce type d'alimentation-là, ben, il peut avoir des regains de poids qui sont parfois même plus importants que d'où est-ce que vous étiez parti. Ça, c'est une chose. On sait qu'on les compare entre elles, hein, ces modes d'alimentation-là. Puis le meilleur mode d'alimentation, qu'on appelle un régime, mais qui n'en est pas un parce que l'énergie consommée est bonne au bout de la journée, c'est le fameux régime ou l'alimentation de type méditerranéenne. Donc, un peu plus de grains entiers, beaucoup de fruits et légumes, un peu moins de viande, des poissons. On va vraiment aller manger de façon diversifiée. On va, tu sais, vraiment permettre aux gens de manger des apports qui sont pas restrictifs. Donc, cette façon-là de s'alimenter, ça demeure à ce jour la meilleure façon de s'alimenter en termes d'efficacité, pas juste à court terme, mais à long terme. Donc, ça a eu des effets positifs sur la santé cardio-métabolique, bien démontrés. À l'heure où on se parle aujourd'hui, il n'y en a aucune autre diète qui surpasse celle-là. En termes de gains, de bénéfices versus des inconvénients qui sont pratiquement imperceptibles, là, parce que c'est juste l'inconvénient, c'est d'apprendre à manger autrement, à long terme, va protéger vraiment la santé cardio-métabolique. Donc, vraiment, ça, c'est une chose. C'est sûr que quand on regarde la consommation des agonistes GLP-1, donc il y en a pas juste un, on parle beaucoup de l'Ozempic parce que, bon, il a été le premier là vraiment à tomber en rupture de stock mondiale. Il a été utilisé à toutes les sauces, parfois de façon inappropriée pour perdre un 400 grammes avant un défilé de mode ou parfois juste parce que la voisine en prend, puis que ça devient presque un concours parce qu'on a vu ça sur TikTok, puis qu'on a le goût de l'essayer parce qu'on n'est pas satisfait de nous-mêmes. Donc, oui, il y a eu une exagération, puis en fait, il y a un danger. Il y a un danger qui est le suivant, c'est de ne pas être accompagné. Au Québec, on n'a pas encore suffisamment d'équipes multidisciplinaires, c'est-à-dire des équipes qui travaillent ensemble, médecins, pharmaciens, nutritionnistes, kinésiologues, tout ce beau monde avec des psychologues, parfois c'est nécessaire, tous ensemble. Ce genre d'approche-là pour supporter les gens au niveau de leur perte de poids, si c'est ça le but, sont très rares, ces ressources-là au Québec, très peu financées, très peu encouragées par le gouvernement et nos décideurs. Donc, malheureusement, ben, ça fait qu'on ne peut pas donner ça en première instance sans avoir toute l'équipe qui est autour puis qui peut corriger le tir. Un, d'abord, identifier les vraies personnes qui en ont besoin. Puis deux, ben, être capable, s'il y a un effet secondaire au bout de 4 ou 5 semaines, ben, de changer la posologie, soit de conseiller à une meilleure alimentation, soit de réduire la dose, parce que, ou de l'arrêter tout simplement si ça convient pas. Donc, on a vu vraiment une exagération. Moi, je ne suis pas contre. Au contraire, il y a même des patients chez les enfants qui en ont besoin et pour l'instant, c'est refusé au Québec. J'étais dans une rencontre internationale. J'ai représenté le Canada il y a 2 semaines, au Danemark, avec des collègues de partout dans le monde où est-ce qu'on a discuté des approches pour être capable de soutenir les enfants, qui souffrent de la maladie. Et vous savez, il y a quand même certains chirurgiens bariatriques pédiatriques qui font des chirurgies à partir de l'âge de 5 ans. Les enfants n'ont même pas eu encore leur puberté. On ne sait pas ce que ça va avoir comme effet à long terme sur la croissance osseuse, sur leur vie, sur l'absorption, d'autres maladies. Donc, peut-être que d'avant d'arriver là, il y a certains enfants avec des conditions particulières, parfois génétiques rares, parfois d'autres déterminants importants qu'on doit considérer, nous, dans un contexte médical, qui pourraient bénéficier de ça avant d'arriver à une solution qui est peut-être irréversible et qui peut apporter des conséquences à long terme. Donc, vous voyez, mais c'est clairement pas autant de gens que ceux qui prétendent vouloir en avoir. Il faut qu'on prenne des décisions vraiment très prudentes au niveau médical. Puis c'est pas quelque chose qui est facile dans un contexte où est-ce que si on pouvait nourrir tout le monde comme il faut, puis je sais pas si vous avez vu South Park, l'édition spéciale de 50 minutes sur la fin de l'obésité. C'est un portrait. Moi, je donnerais une médaille à ceux qui ont écrit le texte parce que ça nous met d'en face la négligence vraiment terrible qu'on a fait en termes de prévention. On en est rendu là. Puis on discute de ça, vous et moi, aujourd'hui, mais si on avait travaillé en amont, si on avait investi dans la prévention, ben, on ne serait pas obligé de faire ce qu'on est en train de faire là, ou du moins de le faire que pour les personnes que c'est vraiment nécessaire.
Ouais, mais on dirait que les gens veulent la pilule miracle ou l'injection miracle qui va faire en sorte qu'ils n'auront pas besoin de reprendre de bonnes habitudes de vie. Puis il faut faire attention quand on parle de ce sujet-là. On veut pas déplaire à personne, mais en même temps, faut le dire. T'sais, si on n'a pas, si on mange pas bien, si on mange que de la nourriture transformée, si on mange des fois à des heures qui sont pas nécessairement les bonnes heures, on déjeune pas, on dîne pas, on fait juste souper, mais on mange n'importe quoi, puis on bouge
Oui.
pas, on va développer des problématiques à long
Vous
terme, puis
savez,
là, ben, on va développer la problématique, fait qu'on va prendre un produit miracle qui va nous faire maigrir, mais on change absolument rien à nos vies.
Puis je le dis encore, là, tu sais, il faut voir cette maladie-là comme un continuum de soins, hein. Le premier pilier du traitement, c'est la prévention, c'est vraiment la responsabilisation collective qu'on doit faire, l'éducation de la population, changer notre mode de vie graduellement, d'avoir des meilleures mesures, là, comme on le dit avec celles qui sont proposées par l'Organisation mondiale de la santé, mieux nourrir nos enfants dans les écoles, aller vers l'autonomie alimentaire. Mais une fois que le premier pilier qu'on présente, en fait, dans le film très bien, il peut y avoir après ça des gens qui doivent, pour des raisons, là, c'est une maladie qui est très complexe, hein. Vous avez quelqu'un qui fait une dépression, qui est dans un moment plus difficile où ses choix alimentaires sont vraiment plus difficiles en raison de sa maladie. Bien, on ne va pas commencer à culpabiliser cette personne-là. Puis si cette personne-là a besoin d'une médication transitoire ou pour avoir une chirurgie, ma collègue docteur Morin à Québec, que vous devez bien connaître, c'est son combat, elle, d'avoir des gens qui attendent une chirurgie pour un cancer, qui doivent perdre du poids. On ne peut pas juste dire à une personne malade, ben va faire du sport, puis responsabilise-toi, puis voilà, la personne est malade. Est-ce qu'on peut considérer une médication pour cette personne-là de façon transitoire, c'est de plus en plus d'évidence nous disent que c'est possible et que si l'accompagnement avec une équipe multidisciplinaire est bonne, ben la personne va peut-être même être capable d'arrêter dans le futur de prendre cette médication-là sans retourner en arrière.
Il nous restait à parler du jeûne intermittent en tant que médecin. Vous trouvez ça comment, le
Oui,
jeûne intermittent?
bien, le jeûne intermittent, c'est encore une fois, si c'est pour manger n'importe quoi quand vous arrêtez de jeûner, le corps, c'est hypocalorique un jeûne intermittent. Fait que ce que vous donnez pas le matin à votre corps avant d'aller au travail, avant de vous déplacer, avant peut-être même de faire du sport, avant de rentrer chez vous, bien, votre corps, il va s'en souvenir, puis il va être fâché, puis il va vouloir se venger. Fait que ça, vous ne pouvez pas changer ça. Il y a une quantité d'énergie qui doit être relativement respectée dans notre corps à chaque jour. Puis c'est là où est-ce que sur le coup, si on compare, j'ai beaucoup de patients qui font le ramadan, c'est un type de jeûne intermittent, si on veut. Ben c'est sûr que j'ai des gens qui sont super bons, ça les aide à court terme. Mais une fois que c'est passé, s'ils tombent dans l'excès le soir avec plein de bons plats pour célébrer, ben il y en a qui prennent du poids pendant le Ramadan. Comme il y en a avec le jeûne intermittent, ça fonctionne pas. C'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on promouvoit chez les adolescents qui sont en pleine croissance. Il y a aucun régime en fait qu'on promouvoit chez les adolescents. Encore moins chez les enfants. Donc, mais chez les adultes, quand c'est bien utilisé, ça peut être utilisé à court terme, mais ce n'est pas quelque chose qu'on encourage à moyen ou à long terme.
Docteur Saint-Pierre, où est-ce qu'on peut voir le documentaire Pourquoi attendre?
Ben, en fait, c'est la période de visionnement public, grand public est terminée là, depuis quelques jours, mais nous sommes, je sais que le producteur est en discussion pour avec certains diffuseurs. On se croise les doigts pour qu'il soit accessible à nouveau à toute la population. Pour l'instant, il a pris aussi la route des festivals, donc il y a quelques festivals que le producteur a choisi d'appliquer pour qu'il soit retenu. On le souhaite de tout cœur. On a aussi, vous savez, ça fait partie aussi d'une chaire d'éducation de 12 sections là, pour former nos soignants, nos éducateurs, la population à avoir des meilleurs conseils, un meilleur regard sur l'hygiène de vie, les saines habitudes de vie. On en a fait, on l'a mis à l'intérieur de notre chaire d'éducation. Donc, les gens qui veulent participer à cette chaire-là d'éducation interdisciplinaire ont accès au film dans le premier module. C'est une façon d'apprendre hein, en même temps, fait que c'est une technique que j'ai pu observer pendant la pandémie. C'est très utile pour que l'information reste parce que quand on écoute un documentaire, ben on a le goût, on est disposé à apprendre. Donc, l'information reste mieux dans notre cerveau.
Ça a été un plaisir de discuter avec vous. On peut vous retrouver à la maison de santéprévention.com, c'est bien ça?
En fait, c'est l'endroit où est-ce que je travaille,
Oui.
mais pour toute information relative au documentaire, ben on peut aller sur l'organisme de charité là, qui nous aide à soutenir ce travail-là. C'est rasc.info, rasc.info. Simplement nous suivre là, sur notre plateforme web. Puis dès qu'on aura des nouvelles du documentaire pour un retour grand public, ce sera l'endroit où est-ce qu'on va l'annoncer.
Ça a été un plaisir. Je vous souhaite de passer une agréable soirée, puis on aura le plaisir de se reparler peut-être dans quelques mois.
Merci.
Merci, Mme Saint-Pierre. Nous, on termine l'émission avec Dr. Saint-Pierre. Je passe l'appareil à mon chum Max qui sera là pour le volume à la planche dans les prochaines minutes. Puis sinon, demain, 11h, on sera ensemble pour ce qui est de Marceau le midi. Merci d'avoir été là. Bye bye. Marceau.